autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Antonio Fischetti.
Bonjour. Ravi de vous retrouver avec Thibaut Baduel à la réalisation pour une émission qui aujourd'hui va nous faire voyager sur tous les continents et dans tous les milieux matériels à la découverte de la physique de l'éphémère. Tout autour de nous, il y a de nombreux phénomènes qui ne durent que quelques instants. Certains sont fascinants par leur beauté, comme les vols de multitudes d'oiseaux, l'écume sur la mer ou la furtive apparition de l'eau dans les déserts. D'autres sont très dangereux, comme les tsunamis, les ouragans ou les feux de forêt. Mais y a-t-il des lois communes à ces phénomènes différents en apparence ? Comment étudier des événements qui sont très brefs et dont certains, en plus, ne se produisent que rarement ? C'est ce que nous allons découvrir en compagnie de deux physiciens, Étienne Guyon et Frédéric Moisy. Ils viennent de publier « L'impermanence du monde » aux éditions Flammarion. Et vous pouvez gagner un exemplaire de ce livre si vous laissez votre adresse postale sur le Facebook de « Autour de la question ». Bienvenue. Frédéric Moisy, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay. Vous faites des recherches sur la mécanique des fluides. Vous travaillez notamment sur les vagues et les écoulements turbulents. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consistent vos travaux ?
Alors, une partie de ma vie est devant les étudiants à enseigner et une autre partie de la vie est dans ma salle d'expérience à essayer d'imaginer, de concevoir des expériences qui reproduisent en laboratoire des phénomènes naturels que vous avez cités, les vagues, le vent et des choses comme ça.
Grâce
comme ça.
À des souffleries, par exemple.
Des souffleries, et voilà. Et on travaille beaucoup avec l'image. Ça, c'est quelque chose que j'adore dans mon métier. On a des caméras, on a de l'éclairage et on analyse les images et on essaye de les regarder à différentes échelles de temps.
Étienne Guyon, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez une très longue carrière à la fois de physicien mais aussi de vulgarisateur puisque entre autres vous avez dirigé l'école normale supérieure et aussi le palais de la découverte.
Oui, oui.
Puisque parallèlement à vos travaux sur notamment la superfluidité, d'ailleurs de quoi s'agit-il la superfluidité en un mot ?
Il s'agit d'un seul système que je connaisse dans lequel cette intemporalité ne fonctionne pas. Si on laisse écouler un film de hélium, une phase particulière de l'hélium, à 2 degrés, elle tournerait éternellement.
S'il n'y avait pas de frottement,
mais il n'y a pas de frottement.
Voilà,
justement, en dessous de 2,17 degrés, il n'y a pas de frottement.
Donc ça dure...
Et ça tourne tant qu'on maintient le froid.
Donc c'est merveilleux. Et vous avez aussi, parallèlement à ces travaux de physicien, fait beaucoup de choses sur la diffusion des connaissances à l'attention d'un large public. Et d'ailleurs, je précise que vous aviez écrit ensemble aussi un autre livre, hein, « Du merveilleux caché dans le quotidien ». Vous venez de publier « L'impermanence du monde » aussi avec deux autres physiciens, Jean-Pierre Hulin et Marc Rabot. Déjà pour commencer, ce titre, « L'impermanence du monde », c'est un titre poétique, hein, ça veut déjà dire beaucoup de choses. C'est-à-dire il y a de la physique, mais il y a de la poésie là-dedans.
D'ailleurs, cher Antonio, avec trois, parce qu'il y avait notre ami.
Oui, avec deux autres amis qui étaient ici.
L'impermanence, évidemment, peut se compter dans des temps très courts. Ce qui va se passer dans une seconde, etc. Ça peut être à la limite, dans l'autre limite, le temps qu'il va falloir pour qu'une montagne mette en place, pour que finalement, au contraire, une rivière se transforme complètement et dévaste les choses. Donc le temps qu'il faut pour que les choses varient, peut être très variable, ce qui fait que c'est un peu une exagération dans cette intemporalité, que tout est intemporel.
Oui, tout est éphémère, ça dépend de l'échelle de temps.
D'accord.
Et Frédéric Moisy, alors justement, est-ce qu'il y a une physique particulière de l'éphémère ? Est-ce qu'elle est différente du reste de la physique ?
Mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette notion de temps, qui est évidemment centrale en physique, c'est que nous, êtres humains, on est sensibles à ce qui se passe à notre échelle. Le centimètre, la seconde, le gramme, etc. Et quand on a affaire à des phénomènes qui s'éloignent énormément de ces échelles, on a beaucoup de mal à les appréhender. Et je trouve que c'est une expérience intéressante d'essayer de ramener, par exemple, de prendre une photo tous les ans, pendant 10 ans, une photo tous les 100 ans, pendant 1000 ans, et d'essayer de ramener les phénomènes physiques à notre échelle pour essayer de les percevoir avec notre échelle de perception. Ça change énormément le regard et c'est très joli, en fait.
Alors justement, parce que dans votre livre, il faut préciser qu'il y a beaucoup de photos, des images très belles. Et pour commencer par une image que nous avons tous facilement, qui est accessible, les nuages qui sont éphémères, qui sont sans arrêt changeants. Il y en a de différentes formes. Il est intéressant et important de les étudier. Mais alors, ce n'est pas simplement une typologie des nuages. Ça peut être très important pour l'aviation, Étienne Guyon.
Oui, ben en fait, nous avons fait travailler un pilote. Pour nous, c'était mon fils, et qui nous a un peu promenés à travers les nuages, qui nous a dit comment, finalement, certains nuages étaient absolument à éviter, que d'autres voulaient, c'est, au contraire, être simplement contournés. Il nous a dit comment, finalement, on pouvait gagner une demi-heure à une heure de temps en venant de l'ouest vers l'est, en utilisant des bons courants aériens, etc. Donc, le nuage, c'est un petit peu comme c'est un guide, comme le sont tous les guides qui sont utilisés dans l'espace.
Donc un aviateur doit savoir lire les nuages. Et oui. Ce qu'on apprend aussi dans votre livre, c'est qu'un ciel apparemment calme peut être dangereux. Ce n'est pas simplement la vision d'un nuage impressionnant qui peut être signe de danger.
Non, certains sont dangereux, comme les culots d'un bus, qui vont effectivement arriver à montrer, qui peuvent véritablement déstabiliser. D'autres ne sont simplement que des amusements qui sont des chapeaux au-dessus des montagnes que nous montrons par exemple et qui n'ont aucun effet et qui en tout cas certainement ne sont pas des formes non naturelles.
Mais Frédéric Moisy, vous parliez d'images et vous, alors je crois savoir, j'ai appris ça dans votre livre, que vous filmez beaucoup de nuages en time-lapse, c'est-à-dire que vous faites des images par image et vous les passez en accéléré.
Oui.
Alors qu'est-ce que ça vous apprend, à part la beauté du geste ?
Oh, je crois que c'est la beauté du geste avant tout, pour être honnête. Mais vous prenez votre téléphone, vous le fixez, vous le programmez pour qu'il prenne une photo toutes les 20 secondes et vous regardez un cumulonimbus. Et quand vous le regardez en direct, finalement, il lui faut une demi-heure, 10 minutes, 20 minutes pour changer de forme et on a du mal à le percevoir. Ensuite, vous repassez le film à l'accéléré et là, vous voyez des bourgeonnements. Vous pouvez penser à une casserole de lait qui déborde et là, vous faites la connexion entre la mécanique des fluides, les mouvements des fluides auxquels vous êtes habitué dans votre expérience quotidienne et ce qui se passe à plus grande échelle et vous vous rendez compte que ce sont les mêmes lois physiques, bien qu'elles opèrent à des échelles de temps différentes, ce sont les mêmes lois physiques qui régissent les mouvements des fluides à ces différentes échelles.
Donc il y a de la physique et de la beauté dans votre livre. Écoutons un autre passionné de la physique de l'éphémère, l'Italien Giorgio Parisi.
On voit milliers de ces tourneaux qui volent le soir, ils font des choses magnifiques dans le ciel et on se demande comment ils sont capables de faire ça. Parce qu'ils voyagent tout ensemble, ils tournent tout ensemble d'un côté, de l'autre, vers le bas, vers le haut. C'était un défi d'un point de vue conceptuel de comprendre comment ça marchait, la communication. Et bien sûr, c'était une communication visuelle. Et la chose qu'on essayait de faire, c'était d'avoir des données expérimentales, savoir exactement quelle est la position des oiseaux dans le ciel, c'est-à-dire la forme tridimensionnelle.
Nous venons d'entendre Giorgio Parisi, d'Italien, prix Nobel de physique en 2021 pour de nombreux travaux et notamment l'étude des vols des tourneaux. Donc c'est quand même assez étonnant qu'on puisse avoir un prix Nobel de physique sur une étude des vols d'oiseaux. Et donc Étienne Guyon, ça ne vous étonne pas puisque ce sont des phénomènes justement très complexes.
Oui, c'est ce qui est particulièrement complexe et que quand un vautour va attaquer ce banc d'oiseaux, on pourrait attendre que l'oiseau de tête se détourne qui déforme le nuage, et ce n'est pas du tout. Ça peut être un autre oiseau qui a vu en premier le phénomène, et tout le nuage va se déformer d'un seul coup, comme dans un ballet, où ça n'est pas nécessairement le pilote qui contrôle. Donc il y a une sorte de comportement collectif global qui est une caractéristique de la physique, ce qu'on appelle la physique de la matière condensée. De la même façon que l'eau passe d'un état solide à un état liquide tout d'un coup, et bien de la même façon, ce tas d'oiseaux qui est là, cette murmuration d'oiseaux, c'est finalement va se désorganiser tout d'un coup pour faire apparaître une nouvelle forme.
Alors vous avez employé le mot murmuration, on parlait de poésie tout à l'heure. Effectivement, c'est le nom qu'on donne à ces vols d'oiseaux groupés, la murmuration, c'est assez beau.
Oui.
Mais alors, ces phénomènes qu'on peut voir dans le ciel qui sont très beaux peuvent paraître chaotiques, mais il y a des lois physiques, mais en même temps, il n'y a pas de chef, c'est-à-dire il n'y a pas un oiseau qui va diriger. Et comment ça se passe, ces mouvements, Frédéric Moisy, puisqu'il n'y a pas de chef, alors comment ils font les oiseaux pour se rester groupés?
Alors, c'est ça qui est formidable, c'est que en fait, il suffit de mettre l'interaction entre ce que les physiciens appellent deux proches voisins, c'est-à-dire deux oiseaux voisins, et il suffit de connaître les lois physiques locales pour que, à l'échelle globale, émerge un comportement collectif. Et notamment, les travaux de Giorgio Parisi ont permis de trouver ces lois locales. Et en fait, ils ont mis, par exemple, en évidence le fait qu'il suffit qu'un oiseau communique avec ses six voisins, ça suffit pour assurer la cohésion de l'ensemble de la nuée ou de la murmuration à l'échelle de milliers ou de dizaines de milliers d'oiseaux. Et on retrouve des phénomènes similaires, par exemple, dans les bancs de poissons, les bancs de sardines, qui sont également un spectacle absolument hypnotique et fascinant. C'est de même ces interactions entre deux poissons voisins qui permettent de donner à l'ensemble du banc une coordination d'ensemble avec différentes formes qui peuvent émerger.
Et ces mouvements d'animaux sont fascinants, mais vous écrivez aussi dans votre livre, vous détaillez ce chapitre sur les mouvements d'animaux, que selon les conditions, ils peuvent se déplacer soit en V, comme les oies dans le ciel, soit parfois de front, soit en quinconce. Donc ça dépend de quoi? Ça dépend du milieu, ça dépend de la vitesse, Étienne Guyon?
Non, tous les mouvements ne sont pas des mouvements collectifs, coopératifs, comme ceux des étourneaux. La navigation en V, qu'on va retrouver aussi chez les humains qui sont en train de faire une course cycliste, est une donnée relativement classique. Ce qui se passe dans le cas particulier de ces oiseaux, c'est qu'on est en train d'utiliser une loi de la science qui est connue depuis un siècle. Ce qu'on appelle la matière condensée, quand les choses sont denses et qu'elles décident d'avoir un comportement collectif, comme Frédéric l'a dit.
Donc en fait,
pour
le physicien que vous êtes, c'est-à-dire ces oiseaux peuvent se comporter comme d'autres grains de matière, ce sont les mêmes lois qui s'appliquent aux oiseaux et à d'autres phénomènes physiques.
Comme le glaçon qu'ils font.
Alors justement, à propos de physique, nous allons écouter un autre prix Nobel, Pierre-Gilles de Gennes.
Il y a quelque chose qui est un ennui constant pour les gens qui manipulent des sables ou des objets du même genre, des objets pulvérulents. C'est le fait que s'il y a des petits et des gros grains, ils ne se comportent pas pareil. Et par exemple, ici, sur ce tas, on voit très bien qu'on a étalé un mélange de petits et de gros. Et les gros se sont accumulés plutôt vers le bas, alors que les petits restent plus facilement sur le haut. Ceci est quelque chose qui gêne beaucoup des gens comme ceux qui fabriquent du ciment, parce que c'est extrêmement fâcheux si quand on entasse le produit de départ, on fait quelque chose qui n'a pas du tout les mêmes propriétés dans différentes parties du sac ou de la pièce qu'on veut faire. C'est vrai aussi bien pour les paysans qui vendent des graines et qui stockent ces graines dans des silos, ça se présente un peu partout. Pour des tas de métiers comme ça, cette histoire qui a l'air toute bête est très ennuyeuse. Et cette histoire va se comprend dans ces grandes lignes. On devine bien qu'un gros grain, il s'arrête difficilement, il roule plus longtemps. Et on comprend bien que les petits s'accrochent mieux sur la pente, s'accrochent dans des petits trous des autres. Mais dans le détail, pour comprendre exactement comment ça va et quel genre de situation on trouve à la fin, il y aura encore beaucoup à réfléchir.
Donc nous venons d'entendre Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique en 1991 et décédé
il y a 30 ans.
En 2007. Donc Étienne Guyon, vous l'avez bien connu puisque vous avez été l'un de ses étudiants et ensuite collaborateur.
Oui, j'étais son premier élève. Et ce qui me plaît dans cet exemple, c'est que c'est un exemple extrêmement quasi-trivial. Ce n'est pas un exemple très savant. Il donne des effets qu'on peut voir, que les enfants dans un musée du sable vont observer eux-mêmes comment se répartissent les petits par rapport aux grands. Il va intéresser les ingénieurs qui font avec eux des bétons haute performance dans lesquels il faut avoir des mélanges de grains. Mais ce n'est pas de la big science.
Oui,
on peut le devenir, mais on en a fait de la big science avec des milieux granulaires. Mais celle-ci est le fruit direct de l'observation. Et De Gennes est un observateur.
Il affectionnait justement particulièrement ce qu'il appelait la physique avec les mains, donc qui consistait à expliquer simplement des phénomènes finalement assez complexes. Et vous aussi, comme Pierre-Gilles De Gennes, vous aimez transmettre aux enfants. D'ailleurs, je crois que vous travaillez avec les petits débrouillards. De quoi s'agit-il?
J'ai présidé les petits débrouillards. Donc
une association qui explique la physique aussi aux petits-enfants.
En même temps, j'étais à l'école normale, je dirigeais l'école l'école normale et les petits débrouillards en même temps.
Et dans ce livre, L'impermanence du monde, la physique de l'éphémère, chez Flammarion, il y a aussi, ce qui est étonnant, des petites expériences à faire soi-même, chez soi, avec de la farine, une assiette, pour reproduire donc, dans sa cuisine des phénomènes qui se produisent à grande échelle, comme un raz-de-marée ou ce genre de choses. Donc Frédéric Moisy, c'est une idée assez étonnante, ça.
Oui, alors c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, et en plus, on a eu la chance que ça soit richement illustré dans ce livre, c'est qu'une bonne partie des phénomènes physiques qu'on peut observer dans le monde qui nous entoure, on peut essayer de le reproduire à petite échelle. Et l'idée, c'est évidemment de le faire avec une grande économie de moyens, c'est-à-dire on ne va pas sortir des microscopes, on ne va pas sortir des accélérateurs de particules, on va juste sortir, comme vous l'avez dit, une bassine, un petit peu d'eau, du sable, et on peut apprendre énormément sur la physique qui nous entoure.
Donc cette physique de l'éphémère, elle concerne beaucoup de phénomènes très différents, et notamment, alors pour nos auditeurs africains qui sont très nombreux, les sables du désert, les sables voyageurs. Donc quand on parle des vents de sable, on peut s'imaginer que le vent fait voyager le sable, mais vous dites c'est pas si évident, puisque si on a du sable par exemple sur notre voiture, bien la vitesse du vent va pas suffire à le faire décoller. Donc le décollement des grains de sable est un phénomène beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît.
Voilà. Exactement. La façon dont le vent s'y prend, entre guillemets, pour arracher le sable au sol est évidemment pas facile à comprendre. Quand on regarde les choses dans le détail, un physicien sait, par exemple, que la vitesse du vent au contact avec le sol doit être zéro. Et donc avec zéro, en théorie, vous ne pouvez pas arracher de sable. Et donc, il doit se passer des phénomènes. Et donc, ça, c'est une des études...
Oui, mais alors ces phénomènes, ces vents de sable sont aussi fondamentaux, puisque là on est dans de la physique qui a des conséquences très importantes, puisque alors des poussières de volcans, on apprend ça dans votre livre, peuvent faire plusieurs fois le tour de la Terre à très haute altitude, entre 10 000 et 25 000 mètres. C'est quand même extrêmement impressionnant ça, Étienne Guyon, vous avez travaillé là-dessus aussi.
Oui, ça a été finalement ces poussières qu'on a vues sur nos voitures, qui étaient rouges et qui étaient des grains faisaient
du sable du Sahara qui arrive en France.
Oui, c'est ça. Et au-delà même, sur finalement les
Mais alors roches. Là, il y a des lois très particulières qui s'adaptent à ces tourbillons de sable. Oui. Quel genre de physique est-ce qu'il faut développer une physique nouvelle
et comment se fait une dune? Certaines de ces dunes ont des formes caractéristiques qui sont très claires, qui sont un petit peu comme une... finalement un croissant, donc ces dunes en croissant, elles ont été formées à partir de ces petits grains qui ont été soulevés théoriquement aléatoirement, mais par le jeu du vent qui a contourné ces dunes qui se formaient, on arrive à une forme très régulière qui va elle-même se déplacer.
Alors c'est ce que nous disait aussi Pierre-Gilles de Gennes sur ces grains de sable. À l'intérieur, quand on regarde de près un tas de sable, il y a des gros grains, des petits grains, et chaque grain se comporte différemment selon sa taille. Et c'est ça qu'il est important de comprendre.
Oui, mais ils ont quand même un comportement collectif. On va voir des bandes de sable, des bandes de sable qui vont être là. Donc, il y a toujours, ce n'est pas le même comportement collectif que pour les oiseaux, mais il y a un comportement collectif qui fait que les grains vont faire des bandes.
Il y a des interactions entre les grains, voilà, c'est un comportement collectif.
On peut les décrire souvent comme par ce comportement-là.
Il y a une sorte de société de grains de sable, c'est ça qu'on peut dire.
Ce qui m'a toujours intéressé, c'est qu'effectivement, c'est un des sujets de la matière condensée. On dit souvent la matière mal condensée parce que au petit niveau, ils sont très désorganisés. Mais ils forment des structures qui le sont, elles, organisées et qui sont responsables des dunes, qui sont responsables des glissements de terrain, etc. Qui sont responsables, pour un de nos collègues jeunes, de musique qui peut être chantée par une dune qui est en train de couler.
Donc on a entendu tout à l'heure Pierre-Gilles de Gennes, mais dites-nous un mot humainement, qu'est-ce que vous avez appris à son contact? Quel genre d'homme est-ce que c'était?
D'abord, on le considère souvent comme un génie de ce siècle, du siècle du XXe siècle, et il a choisi des bons sujets. Non, c'est pas ça. Il a fait des sujets bons. Il a pris des choses, il a pris des choses simples, il les a habillées, il leur a donné ce qu'il fallait de compréhension, de formalisme, d'amitié, d'amour, de dessin. Il dessinait relativement bien et il en a fait des grands sujets.
C'est-à-dire des sujets qui pourraient sembler anecdotiques, comme simplement l'écoulement d'un tas de sable, pour trouver des lois qui, elles, justement, sont fondamentales et s'appliquent à des phénomènes très différents, ça vous voulez dire.
Si je peux me permettre, sur l'exemple que vous avez pris, ça n'est pas un des grands exemples de Degène. Un exemple beaucoup plus important, c'est ce qu'il a fait avec des spaghettis. Comprendre comment, en mélangeant des nouilles longues, on pouvait arriver à comprendre comment fonctionnait un polymère.
Qu'est-ce qu'il a fait alors avec les spaghettis, la mélange
Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un pas de spaghettis qu'il avait mis avec plein de tomates.
Cuit ou...
Cuit, de plein, avec de la tomate,
oui.
Et puis l'autre sans tomate. Et il a regardé comment on pouvait tirer un spaghetti rouge avec de la tomate du reste. Donc, ce petit mouvement de la spaghetti qui est tiré est un comportement qui va définir un peu comme un serpent. Et en faisant travailler ces serpents, il a trouvé les lois par lesquelles l'ensemble se déformait. Parce que si un se déforme, il va se déformer avec d'autres. Et il va définir ce qu'on appelle un mouvement collectif. C'est-à-dire c'est l'ensemble qui va avoir une loi de déformation.
Donc,
tout ça en modélisant... des spaghettis.
Donc la physique de l'éphémère, les spaghettis, al dente, un peu plus de quelques minutes. On reste dans la physique de l'éphémère.
D'accord.
Et on parlait de poésie. Alors je précise que Giorgio Parisi, qui a eu le prix Nobel avec ses études, notamment sur le vol des tourneaux, a publié aussi « Comme un vol des tourneaux » chez Flammarion. Votre livre « L'impermanence du monde » a gagné à la fin de l'émission. Vous écoutez autour de la question RFI. Une petite pause musicale.
Si les nuits d'été on passe des heures à regarder le ciel, à attendre le passage éclair des étoiles filantes, c'est que le charme de la vie a un plus beau potentiel, quand les choses sont fragiles et les secondes fuyantes.
L'étoile filante ne s'installe pas, elle s'envole et disparaît. On l'attend, on l'espère pour un plaisir furtif. Il faut saisir l'instant, pas la seconde d'après.
Les bonheurs les plus intenses sont souvent fugitifs.
Le précaire ça génère, l'émotion s'accélère.
Pour défaire et refaire, laisser faire l'éphémère.
Pour se sentir vivant, loin des routines amères.
Laisser taire l'ordinaire,
laisser faire l'éphémère.
Rien n'est jamais fini, jamais figé, jamais éternel. C'est juste un prêt, la vie, un trait léger de craie. Dans le ciel, rien n'est jamais perdu, jamais foutu, jamais.
Y'a pas d'avant, pas d'après, rien d'indélébile
sur cette terre
que de l'éphémère.
Il ne restera rien de nos livres,
de nos rimes,
de nos lignes,
de nos vies.
Furtive et fragile, on s'en va dans l'abîme, dans le vide. Mais qui sait, on laissera même infime
un faisceau dans la nuit.
Il ne restera rien de nos livres, de nos rimes, de nos lignes, de nos vies. Furtive et fragile, on s'en va dans l'abîme, dans le vide. Mais qui sait, on laissera même infime un faisceau dans la nuit.
Laissez faire l'éphémère.
Les jours passent et tout s'efface. Les jours passent et tout s'efface. 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 Tout s'efface. Les jours passent et tout s'efface, tout s'efface. Les jours passent.
C'était Éphémère, un titre de Grand Corps Malade avec Gaël Faye et Ben Mazoué. Vous écoutez autour de la question. Comment faire la physique de l'éphémère? C'est notre question du jour avec deux physiciens, Étienne Guyon et Frédéric Moisy, pour leur livre « L'impermanence du monde » aux éditions Flammarion. Après les nuages, les oiseaux, parlons un peu des ouragans, puisque c'est une question de physique très complexe. La physique des tornades, des ouragans. Frédéric Moisy, comment est-ce qu'on se forme? Est-ce qu'on sait comment se forme un cyclone, une tornade, ces phénomènes extrêmement violents?
Alors, bien entendu, on a des idées sur la façon dont ça se forme. Toute la question, c'est est-ce qu'on peut prédire si demain matin, la semaine prochaine, il va se former quelque chose à cet endroit-là? Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Basiquement, la physique de la formation d'une tornade, c'est l'élévation de l'air chaud. Et ça, en général, dans le cas d'un ouragan, c'est au-dessus de l'océan. L'évaporation de l'océan crée un courant ascendant. Et si vous ajoutez un petit peu de rotation là-dessus, ce courant ascendant va avoir tendance à enrouler le fluide autour de la colonne montante. Et alors ça, c'est un effet qui est bien connu des physiciens. C'est le même effet par lequel, vous savez, quand vous avez une patineuse artistique qui fait une pirouette, c'est-à-dire quand elle rassemble les bras près de son corps, elle se met à tourner beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un phénomène qui est classique. Et si vous appliquez cette loi fondamentale de la physique à l'écoulement de l'air, eh bien, vous pouvez créer des objets tournants, des ouragans, des cyclones.
Mais la danseuse, elle va elle-même initier ce mouvement, mais l'air chaud au départ, comment il se crée? Il faut qu'il se crée de façon brusque, soudaine.
Alors non, il n'y a pas besoin que ça soit soudain. Il suffit qu'il y ait, alors ça se joue en général dans les latitudes tropicales, parce qu'il faut à la fois de l'air chaud, et puis il faut à la fois également l'ingrédient de base qui est la rotation initiale de l'air. Et la rotation initiale de l'air, elle est liée à des écoulements qui sont reliés à la rotation de la Terre et la fameuse force de Coriolis. Et c'est la somme de ces deux ingrédients, la création de courants chauds par évaporation de l'océan plus la rotation de la Terre, qui peut créer, dans certaines situations, ces monstres tournants.
Mais est-ce qu'ils tournent dans le même sens dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud?
Alors, on sait que la réponse est non. Dans l'hémisphère nord, ils tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que dans l'hémisphère sud, ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de préjugés et d'incompréhensions là-dessus. Beaucoup de gens sont convaincus que, par exemple, en regardant leur lavabo se vider, ils peuvent voir la rotation de la Terre. Il suffit de faire l'expérience pour voir que c'est archi faux. C'est-à-dire ce phénomène d'influence de la rotation de la Terre, il marche à grande échelle, à l'échelle de la Terre, il n'est plus du tout opérant à l'échelle de votre lavabo.
Mais pour les tornades et pour les cyclones, ça marche vraiment. Donc
c'est de la vraie science. Ça, c'est de la vraie science.
Et pourquoi est-ce que ces tornades se forment particulièrement dans certains endroits, comme aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'allée des tornades?
Alors, il faut les bonnes conditions de température, donc ça se fait aux latitudes tropicales ou un petit peu au-dessus. Il faut la bonne configuration d'écoulement moyen qui va donner cette petite rotation nécessaire ensuite par l'amplification. Pensez de nouveau à la patineuse qui fait une pirouette. Et donc, voilà, ces conditions ne sont pas réunies partout sur le globe.
On va rester dans la séquence catastrophe. On va se faire une petite séquence phénomène naturel, donc catastrophique, avec les feux maintenant. Alors Étienne Guyon, il y a aussi dans votre livre un chapitre sur la physique des feux. On apprend beaucoup de choses, notamment que les feux de forêt peuvent avoir des comportements assez complexes. Ils peuvent remonter des pentes, ils peuvent s'associer. On peut aussi utiliser un feu pour lutter contre un feu, mais il faut le faire à bon escient puisque l'effet peut être inversé. Racontez-nous ça.
Je me suis intéressé à ce sujet il y a à peu près une trentaine d'années, alors que je travaillais beaucoup avec Marseille et la Corse. Et c'était un échec à ce moment-là, parce qu'on a essayé de savoir quelles étaient les lois de propagation. C'est-à-dire que vous avez des endroits avec des arbres qui peuvent brûler, contaminer l'arbre voisin et faire des propagations, etc. Et ce qu'on nous disait souvent, écoutez, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de voir comment un feu se propage, c'est comment l'éteindre. La vérité, c'est qu'on a besoin des deux. Parce que pour pouvoir l'éteindre, il vaut mieux savoir où il va aller pour, à ce moment-là, réaliser des contre-feux, voir l'effet des dénivelés. Et donc, on arrive maintenant à une recherche qui est intéressante parce qu'elle met en jeu un phénomène physique. C'est un des éléments qui s'appelle la percolation, dans lequel, finalement, on sent qu'un feu qui va se propager dans une forêt va, de proche en proche, avancer.
La percolation, c'est quoi? C'est la transmission du feu.
C'est la proximité, c'est la propagation de proche en proche de ce feu qui va être, suivant les cas, accélérée ou ralentie. Et à ce moment-là, les pompiers du feu vont optimiser l'endroit où il faut soit l'arrêter avant qu'il soit arrivé, soit le dévier pour qu'il n'aille pas dans des raisons des
mais autres. Pour arrêter un feu, donc il y a des techniques
oui, bien sûr,
évidentes comme
qui n'ont rien à faire avec
arroser,
nous.
Mais il y a aussi des techniques un petit peu plus subtiles. Vous dites par exemple, on peut aspirer un feu avec un autre feu. Comment ça se passe ?
C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est on fait des contre-feux. Le contre-feu, c'est allumer un autre feu devant qui laisse la terre brûler, ce qui fait que celui derrière ne se propagera pas. Mais c'est quand même des méthodes assez rustiques.
Oui, mais si c'est mal fait, ça peut avoir l'effet inverse. On peut, au contraire, augmenter l'incendie.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut jouer sur la géométrie que va utiliser ce feu pour voir où on veut l'arrêter. Et il vaut mieux, des fois, le faire partir un second feu pour dégager la place.
Mais la physique d'une flamme, est-ce que c'est la même physique que d'autres phénomènes qu'on peut retrouver ?
Oui, alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est un sujet de gêne, en l'occurrence, en parler. Lui, il ne voulait pas trop y travailler. Et il disait, finalement, il y a trop de mystères, il y a trop de mythes, il y a trop sur le feu. Et pourtant, il y a eu des très bons personnes du feu. Bachelard lui-même a travaillé sur un peu cette philosophie du feu, de regarder la flamme d'une chandelle. Mais le feu lui-même est un sujet merveilleux. Et ce n'est pas du tout la même de regarder une bougie ou une allumette et de regarder le gaz de ville qui brûle là-dedans.
Et d'ailleurs, dans votre livre, hein, il y a une photo de flamme en apesanteur. La flamme en apesanteur n'a pas du tout la même forme.
Hein. Voilà, ouais. C'est-à-dire que la flamme, en particulier, il suffit de regarder la flamme d'une allumette, elle fonctionne parce que d'une part, la mèche ou le bout de l'allumette va émettre des vapeurs, et les vapeurs, elles vont échauffer le gaz autour et le gaz autour va monter. Le gaz autour, c'est l'oxygène. Ce qui monte au centre, c'est finalement des gaz combustibles. Et l'oxygène et le gaz combustible travaillent ensemble en montant. Et voilà. Donc, et que s'il n'y a plus de pesanteur, il n'y a plus d'impesanteur. Donc l'air ne pénètre pas facilement et l'air va simplement enrober, mais ne va pas faire un courant qui va propager la flamme.
Donc la physique de l'éphémère, ce sont aussi ces phénomènes catastrophiques que sont les glissements de terrain, les coulées de boue, les torrents de pierre. Frédéric Moisy, donc ce chapitre du livre où vous parlez de ça, permet de tirer des enseignements pour anticiper ce genre de catastrophe.
Oui, alors exact. Alors, je trouve que pour rebondir par exemple sur le passage que vous passiez tout à l'heure de Pierre-Gilles de Gênes, très intéressant parce que c'est typiquement un exemple. Alors en plus, il le fait devant un public d'enfants où il explique en regardant la façon dont s'éboulent des grains de différentes tailles. C'est une expérience que chacun peut reproduire dans sa cuisine. Comment on peut apprendre des choses sur la stabilité des sols et sur les glissements de terrain. Le fait que quand vous avez des grains de tailles différentes, les gros coulent sur le dessus, les petits se glissent dans les interstices, que c'est en fait la variabilité de cette taille des grains qui fait qu'un sol est stable. Si tous les grains avaient la même taille, le sol serait très fragile et au bout d'une pente de quelques degrés, tout s'effondrerait. Et je trouve fascinant que cette science complexe de la stabilité des sols puisse se comprendre assez simplement, évidemment, moyennant des approximations, avec finalement un tas de sable et quelques billes.
Et on peut même avoir un changement d'état, puisque le sol qui est solide, et heureusement ça nous permet de marcher, peut soudainement se transformer en fluide, en liquide, peut glisser.
Exactement, et c'est toute la complexité de la prédiction des glissements de terrain, c'est lorsqu'il se gorge d'eau, les contacts entre les grains se font plus disjoints, et le réseau de force qui permet la stabilisation du sol s'effondre et vous pouvez avoir des phénomènes catastrophiques de glissement de terrain où des couches entières de terrain ne sont plus tenues par ces forces.
Pour terminer notre séquence catastrophe, hein, un dernier mot sur les tsunamis, Étienne Guyon. Alors, ces tsunamis sont par définition des phénomènes éphémères et soudains et rares, heureusement, mais en même temps, leur rareté fait qu'ils sont assez difficiles à étudier. Comment on peut étudier, reproduire un phénomène aussi peu fréquent?
Ils sont assez difficiles parce qu'ils sont produits loin des côtes qu'ils vont ravager après et ils se produisent loin des côtes dans des zones où ils sismiques. Ces zones sismiques profondes, quelques milliers de mètres, vont elles-mêmes déclencher en surface des mouvements. Ces mouvements vont faire des petites vagues, mais comme elles sont à grande profondeur, finalement, ces petites vagues sont pas méchantes.
Oui, c'est-à-dire un bateau qui serait au large et qui serait sur le passage d'un tsunami, il ne s'en rendrait quasiment pas compte. Le tsunami est dévastateur quand il arrive sur les côtes.
Quand il arrive dans des zones où la profondeur de l'eau est beaucoup moins grande, les vagues relativement sont beaucoup plus hautes et elles passent d'un régime qui est un régime calme, d'une vaguelette, et à un régime très dangereux qui est le régime de ces vagues qui en fait deviennent de plus en plus hautes au fur et à mesure qu'elles se rapprochent des côtes.
Mais on connaît la physique d'un tsunami, donc dans les grandes lignes, on connaît les lois qui régissent ce phénomène, mais on ne sait pas anticiper le tsunami. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des capteurs sur la mer, puisque le temps que le tsunami se propage sur les côtes, et il faut quand même quelques heures, c'est bien ça?
Oui.
Oui, depuis, en fait, évidemment, on sait mettre des capteurs et ça a énormément progressé depuis le tsunami de 2004. Il y a eu des équipements pour surveiller les zones sismiques et il y a énormément de progrès qui ont été faits.
C'est combien de temps peut mettre un tsunami à partir du moment où il est détecté pour arriver sur les côtes habitées?
Eh bien, en fait, le problème, c'est que ça se joue en... C'est de l'ordre de la minute, parce qu'un tsunami, ça se propage à la vitesse de plusieurs centaines de kilomètres heure, c'est-à-dire à la vitesse d'un avion. Et donc, si vous avez juste une dizaine de kilomètres entre le séisme et les plages, vous faites le calcul, vous vous rendez compte que c'est quelques minutes.
Oui, mais une petite fille, j'ai lu dans votre livre, une petite fille qui a vu la mer se retirer lors d'un tsunami.
Oui.
La mer se retire et ensuite, 10 minutes plus tard, la vague meurtrière arrive, mais 10 minutes, ça laisse le temps quand même de fuir. C'est pas juste une minute.
Oui et non, 10 minutes, ça laisse le temps de fuir. Si vous avez des zones densément peuplées, touristiques,
pas très loin, mais un petit peu quand même.
Mais effectivement, il s'agit de quelques minutes, de la dizaine de minutes.
Étienne Guyon, oui.
Comme pour beaucoup de choses, c'est un problème éducatif, cette petite fille. Parce que cette petite fille a compris, on lui avait montré à l'école, que la vague qui reculait ne voulait pas dire que le tsunami est parti. Il était en train de refaire un retour beaucoup plus dangereux.
Elle a quand même au moins pu sauver sa peau et celle de sa famille. Grâce à ces 10 minutes que lui avait expliqué. Alors on va y revenir à l'éducation après une petite pause musicale. Balaké Sissoko. Balaké Sissoko, Koto Kelefa. Étienne Guyon, vous connaissez bien le Mali. Donc,
oui.
Nous parlons aujourd'hui de la physique de l'éphémère. Mais cette fois, nous allons aborder une autre échelle de temps, puisque vous avez travaillé sur le Mali. Malaki Sissoko est un musicien malien. Oui. Et vous, vous avez travaillé à Nioro du Sahel, un village à 500 km au nord de Bamako. Oui. Un village qui vit de la culture maraîchère, alors qu'il n'y a quasiment pas d'eau. Donc là, effectivement, c'est encore un autre type de physique.
Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. La question, c'est... est-ce qu'on la collecte ? Quand la rivière qui s'appelle Faka fait couler pendant 18 heures l'eau va passer à travers le village.
Oui, mais elle ne reste pas. Là, on est dans l'éphémère, pas. C'est-à-dire qu'il pleut beaucoup, mais de façon intermittente, oui. Soudaine, et la pluie ne reste pas dans le sol.
La réalité de ça, c'est que la pluie qui tombe par an, à ce moment, à Nioro, elle est pratiquement la même qu'à Paris. Mais elle va rester très peu de temps. Donc l'objectif, c'est ou de la garder, et une fois qu'on l'a gardée, de pouvoir la récupérer. Donc mettre un barrage, tel que l'eau va rester un peu plus sur place, va couler. Et ça nous amène à un problème d'éducation. Parce que cette eau qui reste sur place, elle va couler, elle va descendre par un mécanisme qu'on appelle de perméation. Elle va percoler, elle va passer à travers.
C'est-à-dire donc elle va s'infiltrer dans le sol.
Donc il ne suffit pas que ça soit poreux, il ne suffit pas qu'il y ait des petites poches, il faut qu'il y ait vraiment des creux. Et à ce moment-là, soit on la récupère directement par l'intermédiaire finalement de cette eau qui est peu profonde et qu'on va retrouver dans les champs, ou par l'intermédiaire de puits, de forages, et ces forages maintenant qu'on alimente d'électricité vont nous permettre d'avoir avec un pompage de l'eau. Donc le problème n'est pas tant le besoin d'eau, mais le fait que l'eau doit être
savoir
tirée. Et là, le problème est véritablement un problème d'éducation. Et notre effort avec la base, avec finalement un système scolaire établi, et nous avec un système comparable qui travaille, cherchons à donner des données de base sur qu'est-ce que l'eau, comment elle se forme dans une région poreuse, dans un sol, dans un sous-sol, et comment on va pouvoir l'exploiter en la tirant. Donc, dans d'autres pays, elle ressort naturellement, c'est ce qu'on va retrouver dans les Oued, plus au nord. Mais là, dans ce cas-là, il faut arriver à la sucer, à la pomper, et tout notre effort est un effort éducatif, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur, finalement, les champs,
Oui, vous avez mené des projets avec des élèves maliens qui ont réalisé des cartographies de la nappe phréatique en fonction de la pluviométrie. Donc, c'est ça, votre travail d'éducation et de physicien et de vulgarisateur.
D'avoir des puits à différentes places et suivant la pluie, suivant la saison, de pouvoir mesurer à quelle est la profondeur ou comment la profondeur va varier quand on pompe dans ces régions-là. Donc il y a vraiment tout un problème de mesure et on associe les jeunes à faire ces mesures.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a aussi d'autres endroits, du Sahara notamment, où il y a beaucoup d'eau, hein, des sortes de mers souterraines hein, dans le Sahara, comme le système aquifère de Nubie. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, Frédéric Moisy ?
C'est ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire le Sahara, c'est la zone aride par excellence, et pourtant, elle repose sur des millions de kilomètres cubes d'eau. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment l'exploiter et comment l'exploiter en plus de façon intelligente, c'est-à-dire de façon pérenne. C'est-à-dire, si on pompe trop fort à un endroit, eh ben, on a tout simplement un système de vases communicants qui peut créer des problèmes à d'autres endroits. Et donc, il faut savoir gérer tout ça de façon pérenne.
Mais d'où elle vient, cette eau souterraine sur Sahara ?
C'est des eaux fossiles qui...
Fossiles, c'est-à-dire qui sont là depuis très très longtemps.
Qui sont là depuis des millions d'années, exactement. Et puis qu'on peut...
Mais alors comment on peut faire pour l'utiliser, puisque c'est quand même assez étonnant hein. On apprend dans votre livre hein, que donc, ces mers souterraines peuvent être d'une très grande superficie, grande comme plusieurs fois la France,
oui,
sous le Sahara. Donc ça, c'est quand même extrêmement étonnant. Et est-ce que les populations locales pourraient, grâce à l'éducation et à la connaissance des lois de la physique, utiliser, mettre à profit cette eau ?
En partie, certaines régions d'ailleurs continuent à bénéficier un petit peu de cette eau fossile, cette eau souterraine, qui en fait souvent a duré, vient de quelques dizaines de milliers d'années, et qu'on peut voir parce que dans les grands déserts, on va remarquer des gravures qui représentent des humains et des animaux, qui montrent qu'il y a 20 000 ans, ces régions étaient peuplées. Donc, mais la question est l'usage qui en est fait maintenant par ces pays côtiers, qui n'hésitent pas à tirer des grandes quantités, qui là, évidemment, fertilisent des régions de dessert, mais en même temps, appauvrissent irréversiblement ces nappes, qui est un problème.
À propos d'eau et de désert, il y a aussi un autre sujet qui vous tient à cœur, Étienne Guyon, c'est l'utilisation de la condensation de l'eau sur certains supports pour provoquer des gouttes d'eau dans des régions arides.
Oui, alors, il y a plusieurs façons, évidemment. La première, c'est celle qu'on va rencontrer près des côtes pacifiques, dans lesquelles il y a du brouillard, il y a des nuages, c'est-à-dire l'eau en petites gouttelettes. Et si on met à proximité des filets, ces filets vont pouvoir condenser cette eau. Elle va pouvoir se condenser sur des plantes aussi. Et en tombant, elles vont pouvoir faire un flux. Mais il y a une autre façon qui est celle qui est utilisée dans des régions plus désertiques, où l'eau n'est plus des gouttelettes, mais c'est des petites molécules, des petits objets. Donc il faut les transformer, il faut qu'ils deviennent eau liquide pour que ça marche. Et là, on va utiliser un système très différent qui va utiliser l'alternance jour-nuit pour que la nuit, l'eau se condense sur des surfaces et qu'on va pouvoir les récupérer.
Donc voilà, là on est quand même aussi dans la physique de l'éphémère.
On est dans la physique, mais on a tendance un peu à confondre ces deux façons qui sont très différentes.
L'éphémère, c'est aussi notre émission qui va presque toucher à sa fin. Juste un petit mot, Frédéric Moisy, sur une réflexion d'un auditeur, Ena Rakoto, qui pose la question du lien entre cette physique de l'éphémère et la géométrie fractale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot très rapide?
Oui, alors la géométrie fractale, donc c'est, alors peut-être dire ce que c'est que la géométrie fractale. On parle d'objet fractal lorsqu'on a des objets qui restent identiques lorsqu'on les regarde à des échelles différentes. Alors on peut trouver, par exemple, un arbre peut avoir des propriétés fractales. Par exemple, vous regardez un tronc, sur le tronc, vous avez trois branches, sur chaque branche, vous avez deux branches plus petites, etc. Et la nature, et en particulier la nature, quand il y a des fluides, on trouve souvent des objets fractales parce que c'est des façons qui sont très efficaces pour propager des écoulements. L'exemple le plus simple que j'ai envie de donner, c'est celui du poumon. Si vous regardez l'architecture, la hiérarchie des bronches dans les poumons jusqu'aux alvéoles pulmonaires, vous retrouvez des fractales.
Alors très rapide aussi, une autre réflexion d'un autre auditeur, docteur Boifou Serge Armand, qui nous dit que physique vient du mot physis en grec qui signifie nature et que la physique est l'étude des phénomènes naturels. Là aussi, c'est donc extrêmement important pour vous, cette physique des phénomènes naturels. En quelques mots, Étienne Guyon.
De natura rerum, de Lucrèce, bien sûr. Oui. Qui est effectivement la façon dont les Romains se sont emparés, évidemment, de ce concept dont nous bénéficions aujourd'hui.
Ce sera le mot de la fin. Donc, Étienne Guyon et Frédéric Moisy, merci pour cette promenade dans la physique de l'éphémère. Je rappelle le titre de votre livre, L'impermanence du monde, la physique de l'éphémère, aux éditions Flammarion. Il y a un exemplaire à gagner. Il suffit pour ça d'envoyer votre adresse postale sur le Facebook de l'émission.
Sur internet www.rfi.fr.
C'était autour de la question pour la physique de l'éphémère aujourd'hui, donc avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Dans quelques instants, les infos sur RFI, la radio mondiale.